BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, vous allez devoir payer beaucoup plus d'impôts après les élections européennes, parce qu'on vous dit qu'il n'y aura pas d'impôts, évidemment il y en aura, et ça sera après les élections européennes, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous, c'est votre argent, c'est votre week-end, un week-end exceptionnel, un week-end de trois jours, même si la météo est pourrie, et une émission exceptionnelle. Exceptionnel parce qu'on va vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine dans l'économie, sur les marchés et bien évidemment sur vos placements et votre argent. Et puis on va se projeter dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Alors au sommaire aujourd'hui, des thèmes qui me font plaisir. Je les ai choisis parce que je les aime. Les mots de la semaine, rigueur ou austérité. La question macro, le découplage Chine-États-Unis va-t-il s'accélérer? Les États-Unis sont-ils devenus une telle puissance qu'ils peuvent faire tout seul? Le chiffre de la semaine, bah, c'est le pendant de la puissance américaine. C'est 26 200 milliards de dollars. C'est la dette publique américaine juste affolante. On se posera en deuxième partie de l'émission la question sur la bourse. Toujours la même, toutes les semaines, à chaque nouveau record. Est-ce que c'est un bull market ou une bulle? La question d'argent, bah, qu'est-ce qu'on va vous conseiller comme placement de la semaine? Le top ou le flop de la semaine, je vous rappelle que c'est un événement, une personnalité ou une institution qui a fait l'actualité en bien ou en mal de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Elles pratiquent l'économie avec talent et maîtrisent les taux d'intérêt mieux que notre gouvernement. Je ne sais pas si c'est un compliment, parce que c'est pas très... Ah, vous dites que ce n'est pas un compliment?
Dit qu'il y a eu des dérapages.
Non, vous avez dit que ce n'est pas un compliment. Ça y est, je vous ai eu. Valentine, et nos habitudes, elle est très politique, elle n'ose pas se mouiller. Non, mais la BCE, c'est super. Là, j'ai réussi à vous faire dire que vous étiez meilleur en gestion de taux.
Donc, il y a eu un certain dérapage dans leur capacité, après.
Responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute, c'est un spécialiste de la gestion value, hein, on peut dire ça, William. Exact. Ça, c'est vraiment votre cheval de bataille. Hein.
Oui, il y a quelqu'un qui m'a appelé l'ayatollah de la value.
Voilà, c'est l'ayatollah de la value. Alors, je sais pas si c'est... Et il affiche des performances sur la durée qui sont assez époustouflantes. Hein. Vous êtes quasiment dans le top des gérants sur 10 ans, quoi, on peut dire ça à peu près.
10 ans et 30 ans.
10 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans, entre le...
Non, je pense que je m'arrêterai avant. Vous avez c'est 13% par an sur 30 ans.
Bon, ben, c'est pas mal, ça.
Oui, pourvu que ça dure.
William Higgins, vous êtes donc le président et le fondateur d'Indépendance.
Exact.
La revoilà enfin. On a reçu des milliers de courriers de fans en disant « Mais où est-ce qu'elle est? Pourquoi vous l'avez virée? Elle était sympa. Sans elle, l'émission ne peut pas fonctionner. » Mais non, je ne l'ai évidemment pas virée. Mais elle a fait un petit changement de boutique. Alors, on attendait qu'elle soit totalement opérationnelle. Pascal Sévy, vous êtes devenue directrice commerciale chez Lombard-Odier. D'abord, félicitations. Merci. Et ensuite, vous nous dites ce que font nos amis de Lombard-Odier.
Je vais vous donner très rapidement quatre chiffres.
Je vous en prie.
1796, c'est l'année de création du groupe. 300 milliards d'encours.
Je croyais que c'était votre date de naissance.
Non, quand même. 300 milliards d'encours, 2800 collaborateurs et 25 bureaux dans le monde. Donc, c'est une banque suisse qui est résolument tournée vers l'international.
D'accord.
Parce que je peux vous en dire en quelques mots.
D'accord. Et ni Benahouda, ni moi, ni Valentine, évidemment, on peut ouvrir de compte chez vous.
Je regarde toujours le potentiel. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Je vous reçois avec plaisir pour en discuter.
D'accord. Mais on sait que la barre est très haute, mais on va essayer.
Mais ce serait une très grande fierté, Marc, de vous avoir comme client.
Aucune chance. Non, en tant que journaliste, je veille, non.
Non, vous passez votre tour. Il paraît que la Terre tourne plus vite avec la fonte des neiges, mais heureusement, nous avons une boussole dans ce monde qui ne tourne plus rond. Le meilleur, l'immense, l'incontournable, Benahouda Abdelnaïm. Toujours un immense plaisir de vous avoir, et c'est sincère.
Plaisir partagé, Marc.
Allez, on démarre avec des mots qui ont occupé toute ma semaine, jour et nuit, rigueur et austérité. Oui, fais-moi mal, Johnny. Le mot a été lâché enfin. Enfin, par Gabriel Attal, rigueur. Pendant ce temps, Bruno Le Maire, alors il y a deux Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, puis Bruno Le Maire qui critique le ministre de l'économie. Et ben, Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, lui explique qu'il n'y aura surtout jamais, il ne faut jamais le dire ce mot-là, d'austérité. Mais avec un déficit public à 5,5%, est-ce qu'on a le choix? On sent tout de même la panique montée du côté des politiques, mais qui va avoir le courage de prendre la situation en main? Et surtout, Benahouda, au sein de l'Europe, est-ce que l'Allemagne va un jour siffler la fin de partie et nous dire « Bon les gars, nous on ne peut pas respecter des règles d'entêtement qui sont très strictes
et vous donner un chéquier pour faire n'importe quoi.
Vous vous souvenez peut-être, au début de cette saison 2023-2024, on avait beaucoup glosé sur un article qui a été publié dans le Spiegel, c'était au mois de septembre,
oui.
Pour dire la France et l'Allemagne en mieux. Et c'était une ode à l'économie allemande. À l'époque, on était un certain nombre à expliquer que ça allait se retourner, mais aussi vite et aussi violemment, c'était difficile de le concevoir. Il y a un éditorial dans le Handelsblatt, le quotidien économique allemand cette semaine, qui il va au lance-flammes pour dire que la France non seulement est en train de devenir un risque pour elle-même, mais est en train de devenir un risque pour l'ensemble de l'Europe, en expliquant que la nonchalance avec laquelle, c'est le terme qui a été employé, la France était en train de gérer ses finances publiques était inadmissible, que il fallait maintenant que le gouvernement français et le courage, et encore je reprends exactement les termes de cet éditorial, de tenir face à l'ensemble des groupes de pression pour gérer cette déliquescence de l'État-providence français. Ils s'en prennent notamment aux agriculteurs. Ils disent qu'on ne peut pas à la fois promettre un redressement des comptes publics sans avoir un langage de vérité sur les impôts, sur les dépenses, etc. Donc c'est vraiment une sorte de retournement en 7 mois de l'appréciation allemande, donc de la zone euro, par rapport à la France.
Mais la fin de partie, moi je comprends tout ce que vous me dites, mais moi ce que je me dis tous les jours, mais vraiment tous les jours, je me dis mais comment ils acceptent ça ? Parce que finalement, nous on est en toute impunité. Qu'est-ce qui nous empêche de continuer ? On emprunte à 2,8%, c'est aberrant comme taux, on continue à dépenser, on fait semblant, on raconte n'importe quoi en disant, vous inquiétez pas, on va y être à 3% 2027-2028, mais on peut continuer en toute impunité.
Alors, pour deux raisons, certainement. Une qui est explicitée dans une note de la banque ING, la banque néerlandaise, c'est que les Allemands et puis les principales puissances de la zone euro se disent ils ont jusqu'à septembre avec... au moment de déposer la loi de finances à Bruxelles pour examen, ce qui est quand même assez loin, septembre. Et l'autre raison, c'est une autre déliquescence, c'est celle de la majorité du chancelier Olaf Scholz, où chacun tire à huée à dia, où il n'y a pas de ligne directrice, et où on a l'impression qu'il ne peut pas y avoir de langage commun. Un ministre des Finances qui parle ne parle pas comme le ministre de l'Économie, la ministre des Affaires étrangères ne parle pas comme le ministre des Finances.
Donc c'est notre chance.
C'est d'une certaine manière, c'est de s'appuyer sur cette absence de leadership interne en Allemagne pour pouvoir continuer, somme toute, à mener cette politique de finances publiques. Et un dernier point, il y a aussi le fait qu'il y ait ce contexte géopolitique
évidemment
extrêmement grave autour de l'Europe, qui fait que les Allemands ne veulent en aucun cas et ne peuvent en aucun cas remettre en cause cette assise politique.
Donc on peut continuer encore pendant des mois en roue libre. Personne va nous emmerder, quoi.
D'une certaine manière, parce que en cherchant juste avant de venir à cette émission, j'ai lu une interview de la directrice générale du Fonds monétaire international, El Mundo, le quotidien espagnol, qui disait que la France, l'Italie et l'Espagne devaient absolument se serrer la ceinture. C'était au mois d'octobre 2023. On a quelques mois qui sont passés, mais pour l'instant, il n'y a
que... Et les autres l'ont fait, mais nous, on ne l'a pas fait. Exactement. Valentine ?
La France aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins. Hein. Et si on regarde le vrai sujet pour ce déficit, c'est les niveaux des dépenses. On n'est aujourd'hui pas revenu sur les niveaux des dépenses qu'on avait avant le Covid. On continue avec cette politique du quoi qu'il en coûte. Le problème, c'est qu'on est dans un niveau de taux qui n'est absolument plus le même que celui qu'on avait en 2019. Et si on regarde la charge d'intérêt, elle a considérablement augmenté ces dernières années. Hein. On tourne aujourd'hui autour de 55 milliards. On sera à 75 milliards en 2027 si rien n'est fait, ce qui correspond, bon an mal an, au budget de l'éducation. Alors, est-ce que c'est un sujet grave en instantané ? Je dirais non. Mais avoir un niveau de dette élevé et un niveau de remboursement d'intérêt élevé, ça limite toute capacité à faire face à n'importe quel choc. Ça, c'est important. Et c'est également, ça oblige, ça limite toute capacité à investir dans demain. Mais si on regarde aujourd'hui, qui va sonner la fin de la partie ? Qui pourrait la sonner ? C'est pas forcément l'Allemagne, mais c'est aussi les marchés, les marchés financiers.
Mais les marchés, il y a beaucoup de liquidités,
c'est ça.
Il n'y a pas beaucoup d'emprunts allemands parce qu'il y a des règles d'endettement qui sont très fortes, donc on cherche du rendement, donc on va vers la France.
Les marchés sont vraiment bienveillants. Hein. Et si on regarde depuis le début de l'année, il y a eu énormément d'émissions sur les marchés financiers en nombre record. Les États de la zone euro ont peut-être aujourd'hui, à la fin du premier trimestre, ont refinancé plus d'un tiers de leurs besoins de refinancement en brut pour l'année, et largement plus si on regarde les besoins en refinancement net. Si on regarde le taux 10 ans, comme tu parles,
bah oui,
il a baissé depuis octobre.
On se tutoie maintenant. Non, mais c'est pas grave.
De 3,5 à 2,8, donc il a fortement baissé. Ce qui pourrait peut-être mettre un peu de stress, c'est les agences de notation.
C'est quand la prochaine échéance?
Ça va être fin avril, début mai.
Je souhaite qu'on soit vraiment...
Et les agences de notation.
On soit sanctionnés, parce que je me dis, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, il ne se passera rien. William, votre job, c'est de regarder des boîtes qui sont bien gérées. Hein. Vous êtes l'ayatollah de la value. En value, la France, c'est pas terrible, non?
Non, c'est pas terrible, mais il faut dire aussi qu'on avait un président de la République qui, toutes les semaines, annonçait 1 milliard d'euros de dépenses nouvelles. Donc effectivement.
Mais quel est votre jugement en tant que gérant, vous qui avez l'habitude de voir des directeurs financiers, des patrons gérer leur boîte? Je sais qu'un pays c'est pas une boîte, mais vous dites, mais comment, c'est-à-dire la France serait une boîte, on serait en faillite, mais comment vous jugez ça avec votre recul de gérant?
Non, mais d'abord il y a quand même une culture de gauche qui aime bien la dépense publique, et face à ça on a eu le Covid qui a légitimé la dépense.
C'est ça, donc et on est rentré là-dedans. Enfin, quand vous dites de gauche, je dirais de droite aussi, parce que tous les gouvernements ont fait à peu près la même chose. Mais Naouda, j'ai une question sur l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne, si la France est à la croisée des chemins, l'Allemagne est aussi à la croisée des chemins. Problème de business model, il va falloir qu'ils lâchent les vannes. Ils ont les moyens de faire une relance et d'avoir une croissance phénoménale pour les 3 ans qui viennent, rien que dans la transition écologique. Qu'est-ce qui peut vous parler du problème politique de l'Allemagne? Qu'est-ce qui peut faire que ce verrou politique saute pour que l'Allemagne reprenne son souffle?
Il faudrait une autre coalition que celle-ci.
Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une autre coalition que celle-ci?
C'est très difficile à l'envisager, sachant que chacun a beaucoup à y perdre. Les sociaux-démocrates perdraient la chancellerie, les Verts perdraient ce rôle de faiseur de roi avec un ministre de l'économie, un ministre des Affaires étrangères, et le ministre, le FDP, les libéraux-démocrates, enfin les libéraux, pourraient perdre tout simplement leur représentation au Bundestag. Donc, dans ce cas-là, c'est que chacun essaye de se tenir les coudes, malgré tout, pour tenir encore deux.
Donc l'Allemagne est cuite encore en termes de croissance, parce que s'ils font pas de relance, ils auront pas de croissance.
Et c'est pour l'instant, c'est quelque chose malgré tout d'inenvisageable, à moins que, et c'est une hypothèse, mais encore une fois c'est une hypothèse d'école, oui, que les sociaux-démocrates reviennent à la configuration précédente, celle avec Angela Merkel, et lancent une grande coalition avec les chrétiens-démocrates, et qui est à ce moment-là une immense majorité au Bundestag, et qu'ils aient l'assise possible pour pouvoir relancer d'un point de vue budgétaire leur machine. Mais tout ça relève de la spéculation politicienne, et à chaque fois ceux qui disent que telle ou telle partie de la coalition va se retirer, ils sont démentis ensuite parce que chacun...
En tout cas, il faut espérer que ça se fasse, parce que à la fois pour l'Europe, parce qu'une Allemagne qui est au point mort, c'est terrible, et à la fois pour la France, parce que si personne ne vient nous donner des coups de bâton, on va continuer à faire n'importe
quoi. Il n'y a aucune hypothèse où l'Allemagne pourra venir donner des coups de bâton. Vu de l'extérieur, en Chine, aux États-Unis, etc., en Amérique du Sud, la France, par son caractère stratégique politico-militaire, c'est elle qui tient la baraque européenne.
En fait. C'est déprimant, en fait. Pascal.
Ce que je trouve très compliqué dans la situation actuelle, c'est qu'on dépense énormément d'argent, mais c'est la destination des dépenses, moi, qui me dérange, en fait. Parce que ces dépenses-là, elles ne vont pas dans des secteurs qui vont nous permettre de nous enrichir.
Ce n'est pas de l'investissement.
Mais ça devrait justement être de l'investissement. Non, et là, vous pouvez justement opposer les deux modèles. Vous avez les États-Unis d'un côté, qui ont une politique budgétaire expansionniste qui permet d'enrichir le pays, et l'Allemagne de l'autre côté, qui est dans cette très forte austérité. Et on voit bien quand même que, même si ce n'est pas la seule raison, le pays aujourd'hui est en récession. Et effectivement, il nous manque cette impulsion pour que ça reparte. Donc, je ne sais pas comment ça peut se résoudre. Mais en tout cas, les dépenses qu'on fait aujourd'hui, ce ne sont pas les bonnes.
Parce que si on s'enrichit... C'est pas très rassurant, quoi.
Oui, mais si on s'enrichit, vous améliorez votre ratio de dette sur PIB.
Bien sûr,
et donc,
évidemment,
vous avez beaucoup moins ce sujet de financement,
évidemment,
de la dette. Vous rassurez les agences de notation.
C'est pas un bouclier qui
bien
va nous créer de la croissance. Ça, c'est certain.
C'est exactement ça.
Allez. Benaouda.
Mais vu de l'extérieur, on se rend compte, et ça c'est intéressant de voir de l'extérieur, c'est qu'il n'y a pas de majorité en France parlementaire, donc il ne peut pas y avoir de remise en cause majeure. Donc dans ce cas-là, il faut attendre qu'il y ait une autre majorité, laquelle, ça c'est une autre question.
On est mal barré. Allez, la question macro de la semaine, très rapidement, ça me passionne, hein, ce découplage entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'il va s'accélérer? Le sort des États-Unis et de la Chine, on sait, sont liés, mais ils doivent organiser leur divorce, un découplage qu'on voit d'ailleurs dans les chiffres de commerce extérieur. On voit d'ailleurs que la Chine, la croissance, souffre des sanctions qui ne disent pas leur nom des États-Unis. On a vu les entrepreneurs américains cette semaine rencontrer Xi Jinping car ils perdent pied en Chine. J'ai envie de vous dire, Ben Aouda, le divorce est-il inéluctable et est-il possible ?
Il est inéluctable, mais il n'est pas possible. C'est ça ce qui est très intéressant. Vous avez parlé de ce rendez-vous, de cette rencontre entre le président Xi Jinping, et il a reçu un certain nombre de grands patrons américains, de représentants, dont le président de Qualcomm, etc., de Blackstone.
Blackstone, il a rencontré le patron de Bloomberg.
Exactement. Et le ministère chinois des Affaires étrangères a fait un compte rendu en 4 pages avec les photos à l'appui. Ça commence par le président Xi Jinping a été à l'écoute avec attention de ses invités américains. Mais le reste du communiqué n'est qu'un plaidoyer pro domo de la position chinoise avec très peu d'éléments sur ce que la Chine est susceptible d'accorder aux États-Unis pour qu'il y ait un éventuel terrain d'entente tel qu'il avait été question lors du sommet bilatéral au mois de novembre à San Francisco entre Xi Jinping et Joe Biden. Et en fait, les coups de boutoir ne cessent d'arriver. Il y a eu cette semaine un acte d'accusation, parce que c'est vraiment le cas, qui a été établi par Rhodium Group, qui est un bureau d'analyse américain très écouté, aussi bien à Washington qu'à Pékin, qui estime que la propension, et c'est très bien documenté, la propension des industries de la Chine à produire bien plus que la demande a un effet de dépression sur l'offre mondiale qui est dévastatrice. Et c'est une démonstration pour dire qu'ils sont en train de produire à perte, de laisser leurs entreprises.
On le voit sur les voitures électriques. Hein.
Non, mais eux.
Non, mais c'est très significatif. Exactement. Parce que, c'est symbolique, c'est marginal, mais on voit très bien que leur but, là, c'est d'inonder. Comme toutes les portes sont ouvertes, ils y vont.
Exactement. Puis il y a aussi la machine électrique. Il y a la machine électrique, il y a les équipements de télécommunication, il y a les minerais non métalliques. Enfin, la liste est très longue. En disant que non seulement les Chinois sont en train de se mettre à dos la première puissance mondiale et le premier bloc occidentale qu'est l'Union Européenne, mais en plus de ça, ils sont en train de se mettre à dos les économies émergentes, le Brésil, l'Inde, le Mexique, l'Afrique du Sud, parce que ce qu'il y a d'intéressant dans cette note de Rhodium Group, qui est vraiment à charge, c'est de dire qu'entre 2019 et 2023, l'excédent commercial de la Chine avec le G7 a augmenté en gros d'un tiers. L'excédent commercial de la Chine avec les économies en développement a été multiplié par 3. Ouais. Donc au sens où le Sud est lui-même écrasé par cette arrivée de produits et il n'y a pas de barrière douanière et non douanière possible face à cette arrivée-là. Donc on est vraiment à l'aube d'un conflit commercial dévastateur dont on n'a peut-être pas encore l'ensemble des...
Donc vous dites divorce, non, mais découplage, oui, quand même.
Découplage, oui. Alors une dernière illustration, oui. Et je laisse la parole. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine que dans les appels d'offres publiques en Chine, on en a sorti Intel, AMD, oui, les systèmes d'exploitation Windows, etc., pour la solution d'autonomie stratégique intérieure. Et la Chine, pour Intel, c'est 25% du chiffre d'affaires.
Bah, c'est pour ça que
pour AMD, c'est 15% du chiffre d'affaires. Donc, comment les Américains vont faire ces immenses entreprises? C'est aussi une question qu'ils sont en train de se poser.
Allez, on passe tout de suite au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 26,200 milliards de dollars. C'est la dette américaine. Est-ce qu'on doit dire help? Les chiffres sont phénoménaux. La dette est abyssale. Pourtant, la fête continue. Pascal nous disait tout à l'heure, oui, c'est de la dette, mais c'est de la dette qui va dans de l'investissement. On n'avait jamais vu de tels chiffres, surtout qu'on n'est pas en récession. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir une explosion de la dette et du déficit quand on est en récession. Est-ce que les États-Unis... En fait, comment tout ça va se finir, en fait, Valentine? Parce qu'on a l'impression que c'est nos limites, quoi.
Moi, je partage totalement le point de vue de Pascal. Si on peut évidemment s'inquiéter aujourd'hui sur la trajectoire de la dette américaine qui est absolument pas soutenable. Si on regarde la dette sur PIB aujourd'hui qui est à 100, qui continue d'augmenter. Si on regarde la charge des intérêts qui va représenter d'ici un an la moitié du déficit. Mais ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que cette dette, l'endettement des États-Unis est un moteur de croissance de l'économie américaine.
Jean-Marc Daniel vous dit c'est de la croissance à crédit, ça vaut rien.
C'est de la croissance à crédit, ça vaut rien, sauf que si on regarde, là j'ai les chiffres, depuis 2007, le PIB par habitant aux US est en hausse de près de 20%. Sur la zone euro, on est seulement en hausse de 7,6%. Et si on regarde la productivité depuis le Covid, et ça c'est vraiment extrêmement important, le PIB par heure travaillée aux États-Unis est en hausse de 6%, alors qu'en zone euro, on est presque flat.
Non, ça, c'est
on est autour de 0,8.
Pour une fois, vous dites un truc important.
Merci. Donc, on est vraiment aujourd'hui, oui, les États-Unis s'endettent. Oui, si on reste sur cette dynamique d'endettement, on est tous d'accord, ce n'est pas soutenable. Sauf qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se renforcer en termes de productivité. La dynamique d'investissement reste très forte. Et la croissance qu'on a aujourd'hui, c'est aussi la capacité à rembourser sa dette de demain.
Vous dites, c'est pas grave, Pascal, parce que c'est de l'investissement.
C'est pas grave, pas du tout inquiet. De toute façon, ils n'avaient pas tellement le choix, parce qu'il y avait besoin, justement, de continuer à travailler sur leur suprématie, de rapatrier des choses à la maison, de travailler tous les aspects autour de l'armement. Donc, dans tous les cas, moi, je dis que c'est pas grave, que ça a été bien fait, que la croissance est là, qu'effectivement, il y a eu un enrichissement de la société américaine. Et l'autre point que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, quand vous regardez l'état des entreprises américaines, aujourd'hui, elles sont toujours avec énormément de cash. Et ensuite, elles se sont beaucoup endettées, mais à des taux très bas avant que les taux augmentent. Donc, juste post-Covid, elles sont endettées à taux fixe. Ça veut dire aussi que les entreprises américaines, elles sont prêtes à prendre le relais de l'investissement. Et moi, mon scénario, c'est que il va y avoir peut-être un petit peu moins de politique budgétaire expansionniste dans les années à venir, mais il y aura un relais qui sera pris par les entreprises qui vont continuer à travailler, notamment sur la transition énergétique et les investissements nécessaires au bon fonctionnement du pays. Donc, pas inquiète.
Benahouda, quand on prend une dette pareille, c'est qu'on a un sentiment de puissance totale.
Oui, même d'omnipotence. La oui. preuve, il n'y a pas meilleur avocat pour les États-Unis que vu de l'extérieur. Si vous prenez l'entretien qu'a donné cette semaine l'autorité de surveillance du budget américain auprès du Congrès, le CBO, au Financial Times, il vous décrit une situation des finances publiques apocalyptique. Il dit qu'il n'a jamais vu ça, qu'une trajectoire. C'est le patron du CBO, ouais. Ce n'est pas un commentateur d'un plateau télé qui le dit. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle on se dit ça arriverait à le dixième arrive à un autre pays, il aurait déjà explosé d'un point de vue financier. Je vous donne juste une illustration de ce sentiment de toute puissance. Le commandement du Pacifique, l'US commandement du Pacifique, a réclamé 11 milliards de dollars de plus pour le budget de 2025. 11 milliards de dollars, ça représente 20% du budget militaire de la France. Puissance nucléaire, membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. 11 milliards de dollars de plus par rapport à ce qui lui a été appliqué pour établir un système de missiles anti-aériens dans l'île de Guam, face à la Chine. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il suffit de demander et qu'on obtient.
Et ils obtiennent.
Et ils pourraient obtenir. Sachant que le budget du Pentagone est à pratiquement 800-900 milliards, je ne me souviens plus exactement, vous pouvez m'en excuser. Et de ce point de vue-là, c'est ce sentiment de toute puissance qu'on peut toujours tirer un chèque.
Mais alors vous dites sentiment de toute puissance. Moi, ma question, c'est sentiment de toute puissance ou réalité de toute puissance ?
C'est sentiment, ça ma question. Sentiment.
Parce qu'il y a quand même, au-delà du sentiment de toute puissance, Valentine en parlait tout à l'heure, Pascal aussi, on a quand même une réalité de toute puissance. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs aujourd'hui où il n'y a plus de combat, il n'y a plus de sujet. Je veux dire, la messe est dite, la domination est américaine.
Dans un certain nombre de secteurs, effectivement, mais non, il y en a un tas d'autres où...
Vous dites que vous dites qu'il y a des faiblesses.
Mais bien entendu.
Non, mais allez-y, c'est intéressant.
Et encore une fois, on se réfère à ce que dit le CBO.
Je comprends qu'il y a une faiblesse économique.
Non, mais
au-delà économique,
de ça, mais une faiblesse aussi démographique, une croissance économique qui repose en réalité, et je renvoie encore une fois au professeur Daniel, qui est notre guide à tous, c'est cette croissance économique qui repose sur la force de travail, sur les forces vives extérieures, parce que eux aussi sont confrontés à un problème de force de travail intérieure. Donc de ce point de vue-là, ils n'échappent pas somme toute au sort qui est celui de
oui, mais ils le compensent parce que eux, d'abord, ils ont une démographie qui est très forte, et puis l'immigration, elle est débridée. Donc à partir du moment où elle est débridée, elle est soi-disant illégale, mais en fait, elle est totalement tolérée, et c'est ce qui permet permet de donner de la vitalité au pays.
C'est ce qui permettrait aussi à Donald Trump de revenir à la Maison Blanche en ayant les mains libres pour mener sa politique, parce que c'est aussi cette question migratoire qui est devenue extrêmement prégnante dans le débat public, quand je dis la controverse publique américaine. Donc il y a aussi ce problème-là qu'ils n'ont absolument pas résolu, et qui est, enfin, si vous prenez ce qui est en train de se passer entre Haïti, où il y a 100 000 Haïtiens qui sont à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, que vous avez la Floride qui envoie des centaines d'hommes en mer pour empêcher les éventuels boat people haïtiens d'arriver, je peux vous assurer que politiquement, c'est un problème énorme, quel que soit l'apport
en économie
et sur la croissance potentielle.
Merci beaucoup. On se retrouve en deuxième partie de l'émission. Bulle ou boule, la question d'argent, le placement de la semaine, au top ou flop de la semaine, au top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre, à tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve avec Ben Aouda Dedaïm qui m'a déprimé. Je pensais que l'Allemagne était à la croisée des chemins, qu'elle allait prendre les bonnes mesures, mais on est en... Oh là, c'est horrible ce que vous m'avez dit. Et Angela Merkel ne pourra pas revenir. Par contre, celle qui est revenue, c'est pas Angela Merkel, c'est Pascal Sévi, William Egan, l'Ayatollah de la Value et Valentin Elouz, l'Ayatollah des taux, alors. On peut dire ça, non? Vous avez quand même critiqué le gouvernement. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable dans un plateau comme ça. Enfin, franchement, vous avez peur de rien. Allez, on passe tout de suite au marché. Bah, c'est toujours la fête, hein. On est quasiment à 9% sur le CAC. Bon, évidemment, on était fermé vendredi. Le S&P 10%, le Nasdaq quasiment 10%, l'Eurostock 12%, le Nikkei plus de 20%. Quel comeback, le Nikkei. Ça y est, on a revu les cours de ma jeunesse de décembre 1989. Shanghai 1,2%. Est-ce que les marchés... Alors, vous, William Higgins, quand vous voyez la valo, par exemple, du Nasdaq, d'accord? Vous dites quoi?
Ça finira par s'arrêter, mais personne ne sait quand. C'est une bulle, mais...
Pour vous, c'est une bulle. Parce que moi, ma question, voilà, c'est ma grande blague, je la fais chaque semaine, c'est bulle ou boule, Marquette. Donc vous dites bulle?
Sur Nasdaq, c'est une bulle, mais disons, globalement, quand des sociétés gagnent énormément d'argent, c'est quelque part qu'elles ont un monopole.
D'accord. Donc c'est pas une bulle? Si elles ont un monopole.
Au bout d'un certain temps, les pouvoirs publics en ont assez et cassent les monopoles.
Mais ça peut durer un certain temps. Alors ça, vous voulez que je vous dise, et c'est presque de la géopolitique, le domaine de Ben Aouda, je ne crois pas du tout au fait que les États-Unis cassent les monopoles parce qu'on est en guerre avec la Chine. Et donc aujourd'hui, vous n'allez pas affaiblir votre armée. Votre armée, c'est l'armée technologique. L'armée américaine, c'est Apple. L'armée américaine, c'est Amazon. L'armée américaine, c'est Nvidia. Est-ce que vous avez envie de détruire votre bataillon pour laisser les autres vous envahir? Donc cette histoire qu'on me répète à chaque fois, mais oui, à l'époque du pétrole, il y avait tout ça, et puis on a... c'est juste impossible, on ne le fera jamais. Vous ne croyez pas?
Quand on regarde ce que fait l'Europe par rapport aux grands d'Internet, ça peut se faire.
Mais c'est de la blague, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien du tout, on file une amende de 800 millions à des boîtes qui en gagnent autant en quelques heures.
C'est un mouvement.
Donc vous y croyez? Donc vous pour
non,
vous...
mais je ne dis pas que ça sera immédiat.
D'accord.
Mais je dis que à la fin, les pouvoirs politiques n'aiment pas avoir des concurrents.
Donc là, pour vous, est-ce que la bourse est en bulle ou pas? Et est-ce que cette bulle va exploser ou est-ce qu'on a encore du potentiel pour monter?
Alors moi, je suis optimiste pour une raison cynique. En période de réarmement, les économies vont bien. Et ça explique pourquoi il y a une certaine euphorie un peu partout.
Donc vous vous dites que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui crée l'euphorie, c'est l'armée?
C'est l'augmentation des dépenses militaires. Comme quelque part c'est prioritaire, personne ne voit pourquoi ça va s'arrêter. Et traditionnellement, quand il y a des réarmements, il y a beaucoup d'inflation. Donc les gens se disent, les déficits publics, ça sera de l'inflation.
D'accord. Donc vous n'êtes pas inquiet, donc on continue?
Non, je suis inquiet plutôt pour des problèmes militaires que pour des problèmes économiques.
Pascal, vous êtes toujours très positive, ouais. Vous continuez à l'être. À raison, hein, puisque vous avez été positive depuis des mois et bon...
Je dis boule, je dis pas bulle, parce que la définition d'une bulle, c'est qu'en fait, vous avez des actifs qui enflent sans qu'il y ait des vraies raisons fondamentales. Or là, le rallye qui a eu lieu, il s'est quand même fait sur des croissances bénéficiaires qui sont significatives. Prenez l'exemple d'Nvidia que vous avez évoqué. La croissance du titre s'est accompagnée de croissance des bénéfices. Ça a quasiment matché. Quand vous regardez ce qui s'est passé en 2000, l'éclatement de la bulle Internet, on n'avait pas du tout une croissance des bénéfices comme on peut l'avoir aujourd'hui.
Donc vous dites pas bulle du tout?
En tout cas, la croissance de certaines de ces sociétés qui est assez phénoménale, elle est justifiée par des croissances bénéficiaires. Après, j'ai vu un chiffre qui m'a interpellé. Si vous prenez les 10 entreprises du S&P qui sont le plus dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça se paye 25 fois les bénéfices. en 2000 quand la.
Et 25 fois les bénéfices, vous faites hurler William Higgins. Il achète pas une boîte qui
attendez,
a plus de 3 fois les bénéfices. Stellantis, mais... c'est trop cher pour lui.
Je voulais mettre ça en comparaison avec l'éclatement de la bulle Internet en 2000 justement, où on était à 43 fois les bénéfices. Donc là, pour moi, la.
Quand il y en avait.
Exactement, quand il y en avait. Alors que là, il y a vraiment eu une croissance bénéficiaire. L'autre chose aussi qui me semble intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on a beaucoup d'alternatives pour investir notre argent. Et tout le monde ne va pas acheter Nvidia aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez aller acheter, vous pouvez investir en monétaire, vous pouvez acheter des obligations. Il y a d'autres ports du marché. Voilà. Mais il y a beaucoup de destinations, en fait, du cash. Et ça, moi, ça me laisse penser que ça permet aussi d'éviter de trop gonfler certaines bulles à certains moments.
Nvidia, par exemple, c'est une action que vous pourriez jamais acheter, William Higgins.
Non, mais je la regarde même pas.
Vous la regardez même pas ?
Oui, non.
Mais vous la regardez pas, mais du coup, elle a fait x10, x100, vous en faites.
Ah, beaucoup plus, oui, non, mais
ouais,
beaucoup
mais ça ne vous dérange pas ?
Non, ça ne me dérange pas, oui.
Non, d'accord.
Non, mais en fait...
C'est à vous marcher à votre rythme sur l'autoroute, et ça ne vous emmerde pas qu'il y ait des voitures qui passent à 200 à l'heure ?
En fait, pour moi, c'était un problème statistique.
D'accord.
C'est-à-dire, globalement, en achetant les titres pas chers, on arrive à avoir un alpha de 6% sur 30 ans.
C'est quoi un alpha ?
C'est la surperformance par rapport au marché.
Okay.
A priori, si vous achetez les titres les plus chers du marché, vous ferez moins bien que l'indice.
D'accord.
Ce qui n'est pas le cas depuis 5 ans. Hein. Mais pour moi, c'est une période extraordinaire. Donc, je l'admire. Ça me rappelle, parce que j'ai une petite culture boursière, les années 60 où les sociétés en NIC, c'est-à-dire tout ce qui était électronique, a explosé. Ça a duré...
Non, j'ai eu peur. Oui.
C'est pour ça que je voulais vous rassurer. Ouais. Ça a duré 5 ans. Mais ça
même Valentine terminé. Était choquée.
Voilà.
D'accord. Et donc, ça a duré ?
Ça a duré 5 ans.
Valentine, ce qui est intéressant, je vous ai révélé un nom ?
Non, pas du tout.
Vous avez l'air surpris, je vous interroge. D'où vient la liquidité ? Parce qu'on a l'impression que les banques centrales retirent de l'argent, les taux d'intérêt remontent, et pourtant, à chaque fois que je parle à tous les gérants, on me dit « Ah, mais il y a énormément de liquidité ». C'est pas un peu anachronique ?
Non, non, on voit que. Je pense que moi, ce qui a porté les marchés jusqu'à présent, on voit depuis le mois d'octobre, en fait, c'est le changement de ton de la Fed. La Fed qui a dit en 2024, nous allons baisser les taux, pas à cause de la croissance, mais à cause de l'inflation. Et jusqu'ici, on est dans un scénario qui est vraiment idyllique pour tous les actifs risqués, qui est une croissance qui résiste, une inflation qui baisse, qui est un peu plus forte que prévu, mais qui continue de baisser, et qui ne va pas empêcher la Fed de baisser ses taux. Donc moi, vraiment, ce qu'il y a à surveiller pour continuer d'être positionné sur les actifs risqués et ce qui peut sonner la fin du jeu, c'est si aux États-Unis, on a une inflation qui ne baisse pas autant que prévu.
Ça, c'est votre théorie.
Et exactement. Et qui empêche la Fed, et qui oblige la Fed à repousser son cycle.
D'accord,
de baisse
mais moi, ma question, c'est d'où viennent les liquidités actuellement? Puisque les banques centrales retirent des liquidités, les taux augmentent, c'est quoi? C'est de l'argent des excédents budgétaires? Non, pas des excédents, mais de l'argent qui est distribué par les États, c'est ça?
Il y avait déjà des déficits budgétaires qui sont énormes, et déjà, on est sorti du Covid avec énormément de liquidités.
D'accord, mais ça, les a pas asséchés? Il y a pas
un. Non, on les a absolument.
Quand le taux d'épargne d'Américains descend à 2,5%, alors qu'il était à 25% pendant le Covid, il y a bien moins de liquidités ou pas?
Le taux d'épargne des ménages américains est aujourd'hui sur des plus bas, mais on a un effet richesse qui reste exceptionnel aux États-Unis avec un marché actions l'année dernière qui fait plus 20, un marché immobilier qui continue, qui reste résilient malgré les hausses de taux, et on a surtout les revenus réels des ménages américains qui sont en positif. Donc oui, il y a un taux d'épargne qui est bas, mais tant qu'on a un marché de l'emploi qui tient, des ménages américains qui gagnent plus que l'inflation et qui voient du côté de leurs actifs...
Et qui sont optimistes contrairement à nous.
Et qui sont optimistes. Après, attention.
Ah.
Non, parce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on là, on parle qu'il n'y a pas d'impact des taux sur l'économie aux États-Unis, mais on voit quand même aujourd'hui l'impact sur les parties les plus vulnérables de l'économie, sur les ménages les moins aisés qui ont 60% de leur bilan, de leur endettement qui est en taux variable, en préconso. Eux, ils souffrent. Et on voit les taux de défaut sur les cartes de crédit, les taux qui sont à 8. Sur les entreprises aussi, ça, c'est à suivre. Si on voit les taux de défaut aujourd'hui, depuis le début de l'année, ils sont quand même sur des plus hauts historiques en nombre. Hein, je ne parle pas en montant, je parle en nombre de ce qu'on observe depuis 2009. Et si on est dans un scénario où la Fed ne baisse pas ses taux et les taux vont rester plus hauts plus longtemps, oui, on va commencer à voir l'impact de ces taux plus élevés se diffuser plus largement à l'économie. Donc la rapidité avec laquelle la Fed va baisser ses taux est extrêmement importante pour la dynamique de l'économie et pour le positionnement sur les actifs risqués.
On passe tout de suite au placement de la semaine, évidemment dans ce contexte qu'on vient de décrire, hein, c'est-à-dire de taux qui baissent, mais pas tant que ça, de bourse qui est quand même à son niveau le plus élevé. Si Valentine vient par exemple avec sa fortune chez vous, parce qu'elle sévit, donc elle a plus de 10 millions d'euros, ce qui est le montant pour arriver chez Lombard-Odier, qu'est-ce que vous lui conseillez ?
Comme c'est l'ayatollah des obligations, je vais aller dans ce domaine aussi. Non, parce qu'on y croit beaucoup. Aujourd'hui, on a un environnement qui est très porteur pour les obligations.
Sous quelle forme ?
Des obligations
des taux,
d'entreprise
des fonds,
de bonne qualité.
Des fonds ? Il faut prendre des fonds ?
Alors, tout dépend de la taille du patrimoine, justement. Parce que quand on achète une obligation en direct, il y a en général un minimum qui est autour de 50 000 ou 100 000 euros. La norme du marché, plutôt 100 000 euros.
Donc, de toute façon, il vaut mieux faire des fonds pour avoir une diversification, non ?
Oui, absolument. Mais on peut aussi décider d'acheter une obligation parce qu'on l'achète en direct, parce que comme ça, on peut vraiment évaluer la qualité de la société, son bilan, etc. Donc, ça peut aussi avoir un attrait. Les taux que nous avons aujourd'hui, on les a vus 3 fois dans les 25 dernières années. Donc il y a une opportunité historique en fait d'aller loquer un taux dans un environnement qui est vraiment intéressant sur des coupons qui sont assez élevés. Ça dépend ce que vous achetez, mais disons sur 5 ans vous pouvez avoir 4% sur une obligation de bonne qualité. Et comme on va passer dans une phase de baisse des taux qui va arriver à un moment ou à un autre dans les prochains mois, c'est favorable pour les obligations, parce que je vous rappelle que quand les taux baissent, les obligations que vous avez en portefeuille prennent de la valeur.
Vous avez bien fait de me le rappeler.
Et c'est vrai à l'inverse aussi. J'espère que vous êtes convaincu.
J'avais compris dans un sens, je n'avais pas compris dans l'autre, mais bon. Donc, les obligations, c'est ça votre conseil ?
Absolument.
Le placement de la semaine pour William Egan, c'est quoi ?
C'est ESSO. Ils ont sorti des résultats.
Ah, c'est une valeur, vous ?
C'est une valeur, oui.
D'accord.
Moi, c'est toujours des actions. Hein.
D'accord. Je vais vous demander votre recours un peu plus tard. Là, ce que je voulais savoir, c'est vous, aujourd'hui, quelqu'un qui vient chez vous, un ami de la famille, que vous aimez bien.
Toujours des actions parce que ça marche sur long terme.
Toujours des actions, mais tout en actions ?
Oui, bien sûr.
Non, mais attendez, aujourd'hui par exemple, on a du 5%, on a du 4,60 sur des fonds en euros.
C'est mesquin. Et non, mais j'ai une vision, moi, légèrement différente des autres intervenants. C'est je pense qu'on va avoir de l'inflation, mais longtemps.
D'accord.
Voilà. Et ce qui explique pourquoi...
Non mais ça, Valentine est pas, pense à peu près la même chose que vous. Elle le dit depuis des
mois. Oui, mais elle dit si jamais il y avait de l'inflation, ouais, les taux ne baisseraient pas.
Vous voulez dire qu'elle se mouille pas ?
Non, je
oh là là, c'est chaud ça. Il veut dire que vous ne mouillez pas.
Je pense que sur l'Europe, on a une inflation.
C'est chaud
quand même. Après, ça dépend de...
J'ai une battle là.
À moyen long terme, ou ce qu'on appelle pour 2025, l'année prochaine. Je pense qu'en Europe, on peut quand même avoir une inflation qui revienne rapidement à 2%. Hein. Si on regarde quand même les tendances sur les 3 derniers mois, 6 derniers mois, on a quand même une baisse assez rapide de l'inflation. Je vois quand même une situation assez différente aux États-Unis où on a une inflation qui reste plus résiliente.
Voilà. Donc vous dites, il va y avoir de l'inflation. Comme il y a de l'inflation, il faut acheter des actions.
Voilà.
C'est ça ? Mais j'avais cru quand j'étais jeune que quand il y avait beaucoup d'inflation, la bourse baissait. Je me suis trompé.
Ça c'est observé, mais c'était stupide. On appelait ça l'illusion monétaire.
D'accord.
Et les gens ne voyaient pas que les actions étaient des actifs réels.
Très bien, bah au moins voilà, je l'ai remis à ma place, c'était stupide. Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de la semaine. C'est l'événement, la personnalité ou l'institution qui ont fait un top ou un flop cette semaine. Ben Aouda, le top ou le flop de la semaine.
Alors je ne sais pas si on peut parler de top, mais en tout cas c'est d'un strict point de vue objectif le cas. L'industrie de défense turque. Vous avez peut-être vu que les États-Unis se sont tournés, cette superpuissance s'est tournée vers la Turquie pour obtenir du TNT, donc l'explosif pour faire tourner ces lignes de production d'obus de 155 mm. Les obus de 155 mm, c'est la norme standard de l'OTAN qui servent actuellement à l'armée ukrainienne face à l'armée russe. Donc les États-Unis ont besoin de sociétés comme Repkon, comme Arca, que strictement personne ne connaît ailleurs que dans ce milieu et que de l'industrie de défense. Mais en tout état de cause, on va voir que l'industrie de défense turque va produire, selon l'ambassadeur américain à Ankara, l'équivalent, sur le sol américain, l'équivalent de 30% de l'ensemble des obus d'artillerie de 155 mm qui vont sortir des lignes de production américaines. C'est vous dire l'importance extraordinaire qu'est en train de prendre cette industrie de défense turque, aussi bien dans l'artillerie, mais aussi par exemple dans les drones militaires. Il y a une usine en construction, une méga usine en construction sur le sol ukrainien d'une entreprise turque qui s'appelle Baykar. C'est vous dire l'importance.
Ça veut dire que la relation entre les deux pays s'est normalisée ?
Elle s'est plus que normalisée.
Parce qu'elle était très tendue.
Non, elle s'est plus que normalisée. Elle est de l'ordre du lien stratégique. Et d'ailleurs, le président Recep Tayyip Erdogan se rend à la Maison-Blanche le 9
Donc
mai.
Donc c'est lui qui a shifté un peu quand même, ou pas, par rapport aux États-Unis? Il était quand même dans un...
Si vous prenez... Je sais que c'est difficile, mais si vous prenez un peu de recul, okay, la seule puissance réelle qui arrive à parler à la fois à Moscou et à Washington, c'est laquelle? C'est la Turquie. Donc, de ce point de vue-là, ils ont une carte à la fois stratégique, mais aussi, on le voit, encore une fois, d'un point de vue industriel, qui est tout à fait exceptionnel.
Pascal Sévy, le top ou le flop de la semaine pour vous?
Moi, j'ai choisi un top qui est, en fait, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est un constructeur automobile chinois qui s'appelle BYD, pour Build Your Dream, tout un programme, qui sont spécialisés dans les véhicules électriques et hybrides. Ils sont en train de devancer Tesla largement et ils ont vu leur profit bondir de 80%. Donc c'est un constructeur.
Pour moi, c'est un flop parce que c'est un tel désastre.
Ça dépend pour qui. Bah voilà. Justement, c'est à la fois un top flop, ça dépend de quel point de vue on se place.
Pour moi, c'est pas un flop, c'est un désastre, quoi.
Et en plus, ils sont en train de. Pour le moment, ils sont assez discrets en Europe, mais ils vont ouvrir une usine en Hongrie, prochainement, de production de voitures électriques. Et en fait, les prix auxquels ils sortent les véhicules électriques, ils sont quasiment chez eux au même niveau que le thermique. Si vous prenez la voiture la moins chère en thermique, la moins chère en électrique en Chine, il y a 8% d'écart quand c'est du kit au double aux États-Unis. Donc c'est en train de prendre des parts de marché assez phénoménales.
William Egan, ce top ou le flop de la semaine?
Le top, c'est probablement Rheinmetall, qui ont annoncé que leur chiffre d'affaires passerait de 7,6 milliards l'année dernière à 10 milliards.
Qu'est-ce qu'ils font, eux?
Alors, ils fabriquent tout l'armement possible et imaginable, sauf atomique, pour simplifier. Mais ils font pas d'avions, mais ils font des fusages d'avions.
Des chars.
Et ils fabriquent des chars, des munitions, et c'est les munitions qui sont les plus rentables actuellement. Et ils se sont placés sur quasiment tout.
C'est une boîte de côté, ça?
C'est une boîte côté. Amusant, c'est en 2022, c'était une société équipementier automobile avec une petite activité d'armement. Et maintenant, c'est une société d'armement qui a intégré le DAX.
Et la progression du cours a été spectaculaire.
Elle est passée de 134 à 520 en 2
ans. Ah ouais, ouais. Vous en aviez?
Oui.
Ah ouais, bravo.
C'était pas compliqué, non mais... Attendez, quand il y a un début d'une guerre, achetez des...
Bah dans ce cas-là, passez-moi un coup de fil, quoi. Non?
À nous aussi.
Non mais franchement...
Vous pouvez souscrire au fond.
Non mais faites pas ça tout seul, quoi, je sais pas. Marc, salut, il y a cette boîte, elle vaut 100, elle va aller à 500. Entre amis, ça se fait, non?
Exact.
Valentine et nous.
Villeroy de Gallo qui confirme. Hein,
Fayotte.
Quoi?
Ah, quel Fayotte!
François de son prénom.
François, mon ami François. Allez-y.
Qui nous confirme. Hein,
Ah, franchement, il est incroyable, il est étonnant parce qu'il a mené pendant quelques temps, lui, c'était la ligne de la BCE et là, il bombarde la BCE.
Il est vraiment favorable à ce que la BCE baisse ses taux en avril, en juin. Il met bien en avant le risque, l'impact d'une hausse de taux se fait avec décalage. Donc si on ne baisse pas assez rapidement, on risque de se retrouver avec des conditions de financement trop restrictives trop longtemps. Et ce qui met aussi en avant, et c'est intéressant, c'est qu'il va falloir qu'on agisse de façon indépendamment du calendrier de la Fed, et ça c'est vraiment important, et qu'il ne faut pas aussi attacher trop de risques à le risque du fameux dernier kilomètre, c'est-à-dire que ça va être très difficile de ramener l'inflation à 2% au fur et à mesure qu'on se rapproche des 2%. Donc il va vraiment dans le sens de la BCE va devoir baisser ses taux avril ou juin pour éviter un atterrissage trop brutal de l'économie européenne.
Fayotte.
Je peux dire un mot très rapide sur ce sujet?
Non, allez-y quand même.
Mais lancer un débat, mais on n'a pas le temps, mais j'ai du mal à croire que la BCE pourrait baisser ses taux avant la Fed.
Elle n'a pas le choix.
Je sais, mais j'ai du mal à croire par rapport au soutien de sa devise qu'elle aurait le courage de le faire.
Allez, on passe tout de suite au top 3 des gérants et vous allez voir, il y a une énorme surprise. En numéro 1, bravo Pascal. Pascal Sévy avec 12,2% de hausse, ça va être trop fort?
Ah oui, je suis ravie.
Ça va être ravie, vous pouvez l'être. Pierre Chang en 2, 9,7%. Léa Dunant-Châtelet, celle qui vous défend toujours les valeurs vertes. Eh bien, ça y est, revenue dans la course avec 9,6%. Pascal, je vais vous lire votre portefeuille. J'imagine que comme vous avez changé de maison, vous allez changer peut-être un peu votre portefeuille. Alors, je vais vous lire ce que vous avez. Puis on fait un peu le ménage.
Oui.
Alors, on a du Visa.
Je garde.
On a du GTT.
Je vends.
On a du Salesforce.
Je garde.
On a du ASML.
Je garde.
On a du Stellantis. Ah, c'est bien Stellantis.
Je vends.
Vous aimez ça, non, William?
Oui.
Non, c'est trop cher.
Il y a un moment, j'aurais pu. Enfin, je ne pouvais pas parce que c'est, la capi était trop élevée. Non, il y a eu un moment où ça valait rien, oui.
Adyen.
Stellantis. Adyen, je garde.
Sika.
Je garde.
Stroman.
Je garde.
Fortinet.
Vends.
Thermo Fisher Scientific.
Je l'ai déjà vendu, ça, dans le passé.
Non, pas de bon, c'est pas grave. Nexans.
Je vends.
Veolia.
Je vends.
Saint-Gobain.
Pareil.
Microsoft.
Je garde.
Infineon.
Je garde.
Et Essilor Luxottica.
Je vends.
Mersenne.
Je vends.
Qu'est-ce que vous nous. Sur les valeurs que vous avez gardées en portefeuille, est-ce que vous voulez faire un focus sur une ou deux valeurs?
Deux valeurs, on va parler de la plus belle performance, je pense, et de la moins bonne, hein, et qui sont tous les deux un peu dans le même domaine, qui sont ASML et Infineon. Ouais. Donc, c'est le domaine des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est un marché sur lequel on est très positif aujourd'hui. Déjà, en fait, les semi-conducteurs, c'est quoi? C'est les smartphones et les PC. Et en fait, c'est souvent des biens d'équipement qui ont des cycles de 3 ans. Ça a explosé post-Covid, donc 2020. Voilà, on est en 2024, donc aujourd'hui, il y a une très forte reprise dans ce domaine-là. C'est 60% du marché des semi-conducteurs. Et les véhicules électriques, on en a parlé. On devrait avoir 30% des véhicules vendus en 2030 qui sont électriques. Et un véhicule électrique a 2 fois plus de semi-conducteurs qu'un véhicule thermique. Donc il y a un très bel effet autour des semi-conducteurs aujourd'hui. Infineon, ils se vendent vraiment pas cher. Aujourd'hui, c'est vraiment attractif au niveau de la valorisation. C'est 13 fois les bénéfices, alors que la moyenne des 5 dernières années, c'était 18 fois, et le secteur, c'est 30 fois. Et en fait, leurs clients avaient besoin de réduire les stocks, donc ils avaient eux-mêmes réduit leur production. Mais on est à la fin de ce cycle. Donc c'est une société dans laquelle on croit beaucoup, qui devrait se reprendre. Et ASML sont en train de bénéficier complètement, je dirais, de l'effet Nvidia. Pour faire ce que fait Nvidia en intelligence artificielle, ils ont besoin de sociétés comme ASML qui sont 100% de part de marché dans les technologies les plus avancées de gravage.
ASML qui a fait plier le gouvernement pour rester aux Pays-Bas.
C'est ASML, c'est comme Novo Nordisk au Danemark. Et on ne sait pas qui est le réel Premier ministre.
C'est ça. Et d'un autre côté, si vous étiez le patron...
vous n'avez pas le choix.
Vous n'avez pas le choix. Et puis c'est tellement stratégique. C'est un stratégique et c'est un produit d'avenir. Vous n'allez pas le laisser partir ailleurs.
Si Jinping parle de ASML... Donc c'est vous. S'il ne parle pas d'autres, d'autres entreprises européennes.
Est-ce que je peux avoir une musique qui fait peur là? Les yeux dans les yeux, William Egan, je vais vous donner votre portefeuille. La France vous regarde. Vous allez me dire ce qu'on fait de vos actions et vous allez me dire ce que je dois acheter. J'ai du Jacquet Metal Service dans votre portefeuille. Vous le gardez?
Je le garde.
À vie?
Oui, à peu près.
D'accord.
C'est-à-dire, il y a des bonnes et mauvaises années, mais d'accord, on est dans
on
années.
S'en fout. On a 50 ans devant nous. ALD.
ALD, ça j'en ai plus.
D'accord, on le vend.
On le vend, oui.
Vielle?
À Vielle, j'adore. Ils capitalisent à peu près 700 millions d'euros. Ils ont 98 millions d'euros de résultats. Ils ont publié cette semaine. Ça se passe bien.
Et vous aimez le patron?
Le patron se débrouille bien. La valo est très basse. La liquidité est nulle, mais j'aime beaucoup.
Super, vous avez donné beaucoup d'arguments. Katana?
Katana, c'est un peu compliqué.
On garde ou pas?
On allège légèrement.
Non, on n'allège pas, nous. Chez nous, on
allège. On vend. Allez.
Et qu'est-ce qu'on achète?
Esso.
D'accord.
1 milliard de capi, 550 millions de cash. Et ils ont fait 700 millions de résultats courants sur les 3 dernières... À chaque... Plus que 700 millions de résultats courants les 3 dernières années.
Non, mais attendez, comment c'est possible? Comment on peut avoir 1 milliard 2 de capi et 700 et
ça? C'est 1 milliard 3, je viens de faire une erreur, mais ça ne change pas grand-chose.
Mais comment c'est possible d'avoir un multiple qui soit aussi bas?
Parce que c'est du raffinage, que globalement les gens ne veulent pas d'énergie fossile, que les marges du raffinage, ça bouge. Si les Ukrainiens s'obstinent à bombarder les raffineries russes, ça peut durer un certain temps.
Et donc, du coup, c'est une valeur parce qu'il n'y aura pas de sortie. Ça peut rester à ce niveau-là pendant des années. Est-ce que ça sert des dividendes qui sont importants ou pas?
Ça sert des dividendes corrects cette
année.
Donc,
on joue quoi, le rendement?
Non, mais en fait, on joue rien.
D'accord.
C'est-à-dire, en fait, on n'achète que des titres pas chers et obligatoirement, il y en aura certains d'entre eux vont monter.
Ça, c'est votre philosophie?
Oui.
Donc on joue rien, on achète des titres qui sont pas chers, mais il y a des titres qui sont pas chers qui restent pas chers pendant toute leur vie.
C'est vrai. Ouais.
C'est pas grave?
C'est pas grave, non, mais il y a 80% des actions ne font rien par rapport au marché monétaire. D'accord. Donc c'est 20% qu'il faut avoir si on a envie de bouger.
Et dans les actions qui sont pas chères, combien font rien par rapport au marché monétaire ?
À peu près la même chose.
D'accord, c'est rassurant. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. Formidable plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont on me dit dans l'oreillette qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir et nous revoir en replay et en podcast sur toutes les plateformes.